Festival Chromatique est de retour du 26 mai au 2 juin prochain à l'Ancienne École des Beaux-Arts. Le Festival Chromatique est de retour du 26 mai au 2 juin prochain à l'Ancienne École des Beaux-Arts de Montréal. Installations numériques, réalité virtuelle, arts classiques, conférences et ateliers en famille. Une foule d'activités présentées à travers les différents volets du festival. Ne manquez pas les deux nuits chromatiques, les 26 mai et 2 juin. Un voyage entre rythme, house, techno, disco, pop et afro avec Pascal Project, Seychelles, Jesse Futterman, Bonbon Kojak et plus encore. Pour tous les détails, www.chromatique.ca.
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
Hey, à quoi on joue?
La vie est un grand jeu.
Viens t'asseoir avec nous.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre rendez-vous bimensuel. Et oui, mesdames et messieurs, hein, j'ai dit bi-hebdomadaire depuis le début de la saison dernière. Et c'était une erreur de dire bi-hebdomadaire puisque ça n'arrive pas deux fois par semaine, mais bien aux deux semaines qu'on se voit. Ce qui est aussi un non-sens puisque ce mois-ci, on se voit pas juste aux deux semaines, deux fois par mois. On se voit trois fois dans le mois puisque ma première était le premier, ma deuxième le 15. C'est fou, hein, Anne-Sophie? Elle est en studio avec nous.
Ben oui, c'est fou. Bonjour!
Hey, ça va bien?
Oui, ça va bien et vous, Jeanne?
Ben, ça va très bien. Alors, je sais pas comment m'exprimer, bimensuel, mais c'est la première fois que j'utilise ce terme-là, puis c'est une erreur, en fait. Donc, aujourd'hui, à l'émission, comme je vous l'ai dit, la dernière émission, on va se parler de droit criminel, plus précisément de la mens rea. Alors, on a beaucoup parlé de droit civil depuis le début de l'émission la différence entre le droit civil puis le droit criminel et pénal, pourrait-on dire, hein, pénal et criminel, en fait. Entre autres, le droit pénal, c'est le droit qui gère l'ensemble des comportements qui vont à l'encontre des valeurs et des normes de conduite de la société. Ça inclut les infractions provinciales, territoriales et les infractions réglementaires et aussi les infractions criminelles. Nous, on va plus se pencher sur la version criminelle parce que quand on parle de droit criminel, c'est fédéral, souvent. Hein? Le code criminel, c'est un code canadien, tandis que le code civil québécois, ça va être un code provincial. On dit deux paliers de gouvernement, Anne-Sophie, mais en fait, on pourrait dire deux gouvernements différents, puisque, ils sont pas sur un palier différent, ce sont juste des gouvernements qui ont une compétence différente grâce à notre merveilleuse Constitution. La chose la plus importante dans la Constitution, c'est peut-être ça justement, les compétences de chacun. Et la compétence en droit criminel va au fédéral.
C'est toute une introduction, ça.
Mais je sais bien, il fallait bien faire la différence. Il y a d'autres lois qui vont légiférer en termes de criminel et que le code criminel. Par exemple, au fédéral, on va trouver la loi sur les drogues et tout ça. C'est pas aujourd'hui qu'on va parler de tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais dans le droit pénal, hein, un exemple de droit pénal qui est tombé dans la cour du provincial, ça va être le code de la route. Ça, c'est différent d'une province à l'autre et c'est le provincial qui légifère, mais ça fait partie de la grande famille du droit pénal, donc du droit qui nous amène à être pénalisés si on contrevient. On a droit à des punitions. Au droit civil, on fait la réparation. Au droit pénal et criminel, on punit les gens pour leurs actions. C'est la grande différence entre les deux. On va penser aussi aux règlements municipaux, hein? Les fameux stationnements. Si vous avez un véhicule, j'espère que vous avez pensé à votre budget ticket de stationnement. Sur ce, plus précisément aujourd'hui, on va parler de la mens rea, qui est un des deux éléments avec l'actus reus qu'on doit prouver hors de tout doute en droit criminel. Là, vous vous dites, il a parlé en latin, je comprends rien de ce qu'il dit. C'est quoi cette histoire-là? Je suis pas venu écouter une émission de latin. Écoutez, l'acte criminel, on parle de l'actus reus, l'acte criminel, donc le fait de faire un crime qui a des conséquences. Hein. Il faut qu'il y ait des conséquences en droit criminel, c'est très important ça. Et l'intention criminelle, la mens rea, l'esprit criminel. Et ben c'est pas seulement de ça qu'on va parler, hein, d'un côté un peu plus ludique, on va s'attarder au jeu Mysterium, un jeu assez plaisant, hein. Et bien sûr, ben Anne-Sophie, elle va pas juste répondre à mes interrogations un peu nounounes, elle va aussi, croyez-le ou non, nous faire une petite chronique. Et quelle sera, en quelques mots, votre chronique du jour, Anne-Sophie?
Ben, pour la saison estivale, j'ai décidé de vous d'associer certains types de jeux de société avec des drinks.
Oh, ça,
des
c'est
cocktails.
Prometteur. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir les essayer aujourd'hui?
Non.
Une chance parce que mon latin perdrait ses balises. J'en perdrais mon latin, comme on dit en bon français. Ah, ben ça promet d'être une émission pas mal intéressante. Sur ce, je nous donne une petite pause musicale, tiens.
Sous un ciel de mer, au teint orangé, t'avances et v'là que tu t'es là, saisissant la chance, parti sans remontrance.
C'est dans ta tête de Les Lunatiques sur leur album Essayez-les. Je vais vous avouer quelque chose. L'émission de la semaine était quelque chose dans mon horaire qui n'était pas tout à fait facile à planifier. Donc là, je suis un peu en train d'ajuster les volumes pour qu'on m'entende bien, qu'on entende bien la musique. Alors ça se peut que je cours un peu après ma salive, comme on dit en bon français, durant cette émission. Sur ce, continuons, hein, puisque on va commencer tout de suite à parler de Mysterium. J'ai décidé de commencer l'émission en parlant d'un jeu. C'est ce que je fais d'habitude, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est le fun de parler du jeu en partant. Mysterium, c'est un mélange entre le jeu Clou et le jeu Dixit. fait, pour ceux qui ne connaissent pas ni l'un ni l'autre, ben allez vous l'acheter. Non, c'est pas vrai. Clue, c'est un vieux classique où est-ce qu'on essaie de trouver le coupable d'un crime. Et Dixit, c'est un jeu où, à l'aide de cartes un peu abstraites, on essaie de trouver ce à quoi un des joueurs fait référence. Alors, c'est de l'interprétation et tout ça. Dans Mysterium, les joueurs doivent trouver le coupable d'un meurtre qui a été commis dans un manoir à la fin du 19e siècle. Soit dit en passant, l'action se déroule dans les années 20, ce qui ne change pas grand-chose. Mais ça donne un petit peu une ambiance d'horreur. D'ailleurs, Libellude, l'éditeur, a fourni une trame sonore pour ce jeu-là qu'on va écouter en fond. Et donc, un des joueurs va incarner l'esprit qui hante ce manoir, soit la victime du meurtre, hein, vous l'aurez bien deviné, les plus perspicaces d'entre vous. Et les autres joueurs seront des médiums, invités au manoir pour élucider le meurtre et apporter la paix aux fantômes qui hantent le manoir. Le concept, c'est que le fantôme communique avec les médiums à travers leurs rêves et que l'interprétation de ces rêves devrait révéler ce que les différents suspects faisaient le soir du meurtre et, éventuellement, lequel est le meurtrier. Est-ce que vous reconnaissez les bruits de la cour? Oui, hein? Je vous ai bien eu. Par contre, dans le jeu Mysterium, on n'ira jamais à la cour. Au courant de la partie, chaque médium aura à former un trio suspect, lieu et objet, grâce aux indices que le fantôme va lui donner. Et à la fin, les médiums devront identifier tous ensemble un des trios comme étant celui du meurtrier grâce à un dernier rêve. Donc, chaque tour constitue en un rêve où le joueur fantôme donne une ou plusieurs cartes de rêve, d'interprétation à chacun des joueurs et chacun de ceux-ci doivent interpréter les cartes en fonction de où est-ce qu'ils sont rendus à trouver les différents éléments. Les cartes, là, c'est des œuvres d'art abstraites et souvent mènent à des interprétations contradictoires selon les joueurs. Hein. Les différents éléments du trio sont trouvés un après l'autre. Hein. Pour ceux qui avaient déjà compris, là c'est compliqué, quel élément, ça va avec qui, quoi, quand. Alors les différents éléments du trio sont trouvés un après l'autre. Alors on trouve d'abord le suspect, ensuite le lieu et enfin l'objet. Et si un joueur n'a pas encore trouvé le suspect, ben il sera jamais en train d'avoir des indices qui ont attrait au lieu. Mais par contre, chaque joueur est indépendant. Hein. Ils vont chacun peut-être il y en a un joueur à un moment donné qui va être en train d'avoir des indices sur son objet pendant que l'autre joueur est encore à chercher son suspect. C'est un jeu coopératif. Donc, tous les joueurs peuvent aider, et ici, ceux qui me voient que je fais des guillemets dans les airs, peuvent aider à l'interprétation des rêves par le fantôme. Mais ça peut donner des situations parfois frustrantes. Puisque, surtout pour le fantôme, hein, qui lui va parfois voir des premières interprétations qui étaient justes, qui rentraient dans ce qu'il voulait dire, et les autres joueurs vont venir renverser cette interprétation-là, et hélas, ce joueur qui est le fantôme ne pourra que pleurer en silence. Puisque le fantôme ne peut que communiquer avec les autres autrement que par le rêve, ou à la fin de chaque tour, quand on demande au fantôme si chacune des interprétations est la bonne, il ne peut que dire, il ne peut répondre que par l'affirmative ou la négative grâce à un signe fantomatique comme un objet qui bouge ou un petit coup sur la table. Et donc ça peut être très frustrant pour le pauvre joueur fantôme. Le tout se déroule sur un maximum de 7 tours, donc il est possible qu'on ne trouve jamais le coupable. Et certaines personnes vont être complètement folles à cette idée. Et on va donc écouter la chanson « Doudingue » de Jérôme Violent sur son single. Merci Jérôme Violent, quelle aventure il nous amène dans cette folie de doudinguitude. Avant de passer à notre discussion sur le droit, je vais vous parler un peu de ce lien que je fais. Pourquoi j'ai choisi Mysterium et de vous parler de la mens rea. Eh bien, c'est assez simple, hein? vous en rendrez tous compte. On parle de crime, hein? Anne-Sophie, vous avez bien compris? Je la prends tout le temps au piège, je suis coquin comme ça.
Oui, j'ai compris.
Chance. J'avais l'impression de peut-être être un peu opaque à ce niveau-là. Mais bien sûr, l'actus reus, le crime qu'est le meurtre, c'est pas ça dont je voulais vous parler en droit. Donc, c'est plutôt la mens rea. Et la mens rea, il y a une forte charge d'interprétation autour de la mens rea. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard quand on va parler du cas. Les cas en cours là sont pas si simples que blanc-noir. Il était là avec son couteau ensanglanté, puis il a tué une autre personne. Et il m'a dit, avant de me tuer, je vais te tuer. Tu sais, ça serait simple, la vie comme ça. Non, les cas sont compliqués parfois. On peut penser à la femme battue qui tue son mari un soir alors que les invités sont au salon et que le mari n'est pas en train d'atteindre à sa vie, mais l'a menacée en une énième fois verbalement de la tuer. Est-ce que c'est de la légitime défense? Pas vraiment. Le cas va faire jurisprudence. C'est un cas qui a vraiment existé, ça. Et ça a maintenant la défense du syndrome de la femme battue. Mais l'interprétation des faits dans ces cas-là, comme dans ce premier cas-là, et surtout des intentions, est fort important. Comme dans Mysterium, où l'on va essayer de trouver l'intention du fantôme quand il nous partage certains indices. Hein? Autour de la table, là, le chum ou la blonde du fantôme va dire « Ouais, mais je suis sûr que c'est ça. » Puis là, les autres « Oui, mais le vert, mais le bleu sur la carte, mais la petite croix. » On essaie de trouver l'intention, puis le fantôme ne peut rien dire. On peut d'ailleurs voir ça comme les preuves d'intention dans un procès, dans la cour, qui sont souvent matière à interprétation. Hein. Après tout, c'est rare, comme je le disais, qu'on va avoir accès à un courriel de la victime décrivant son intention et son état d'esprit. Hein. Un autre aspect qui peut faire penser au fonctionnement de la cour est le fait que les médiums ne peuvent pas questionner le fantôme. Hein? Dans une cour, le juge doit recevoir la preuve et s'y tenir. Il pourra s'exprimer en ce qui concerne les règles de droit, parce que c'est lui l'expert de la règle de droit. Mais il ne pourra pas demander des clarifications sur la preuve. Il ne peut pas non plus questionner le témoin lui-même. C'est le travail des autres personnes. Il pourra pas non plus demander d'autres éléments de preuve. C'est pas son rôle au Canada. Dans notre système, le juge, il reçoit la preuve, il la prend comme elle est et il l'interprète en fonction de ses connaissances en droit et bien sûr des connaissances générales. Il va toujours y avoir des petites exceptions à ce point-là, bien sûr, mais la règle veut qu'il soit silencieux, comme un pauvre fantôme dans Mysterium. Lui aussi pourra peut-être pleurer en silence, devant le manque de rigueur de certains acteurs de sa cour. Par contre, dans Mysterium, et là c'est une grosse différence, on ne s'inquiète pas de la mens rea du coupable, hein, on fait juste trouver le coupable, le pointer du doigt, puis espérer que le fantôme va trouver sa paix là-dedans. Donc c'est pas complet, mais on pourra donner des points pour la démarche, comme dans la chanson de Loïc April, des points pour la démarche, sur son album Loïc April. On a du fun en studio avec Anne-Sophie qui nous fait des belles faces, des grimaces. Tiens, je vais vous en montrer une belle. Elle est en train d'en faire une. Écoutez, les amis, c'est maintenant le temps de parler de ce léger sujet qu'est la mens rea dans le droit criminel. C'est le terme latin, hein, qui signifie l'esprit criminel, comme je l'ai un peu déjà mentionné. Ça comporte des éléments comme l'intention, la planification et la préméditation, la connaissance, l'aveuglement volontaire, hein, celle-là vous l'avez pas vu venir, hein, peut-être, ou l'insouciance, hein. L'insouciance, l'aveuglement volontaire, on va parler d'omission. Alors on peut commettre des actes criminels en omettant d'agir, hein. On peut se faire condamner pour n'avoir pas agi, faire de l'aveuglement volontaire. Par exemple, entreposer un colis suspect sans s'informer, hein, votre ami d'enfance là qui vous savez qui sort qui a des contacts avec les criminels, puis vous prenez sa valise, je vous parle de cas qui sont déjà arrivés soit dit en passant, et votre défense ça va être de dire ben je le sais pas c'est quoi qu'il y a dans la valise, et là on va vous demander: avez-vous posé des questions à votre ami que vous savez qu'il a un passé criminel puis qu'il y a des tendances à en tout cas récidiver puis tout ça? Alors vous avez compris que ce n'est pas une défense de dire je le savais pas monsieur. Hein? Mens rea, ça fait référence à une maxime vieille de quelques siècles maintenant, ma foi. La maxime actus non facit reum nisi mens sit rea. Hein, mon latin est pas pire, hein? Oui, je sais que vous trouvez ça. La mens rea habite... Oh, on va se calmer les nerfs, là, Anne-Sophie, s'il vous plaît. Non, c'est pas elle qui applaudit pour vrai, je vous l'avoue. C'est donc, ça signifie que l'acte de culpabilité ne rend pas un individu criminel à moins que l'esprit de cet individu soit aussi coupable. Hein? Par exemple, un exemple vraiment frappant, malgré que ce soit une voie de fait de frapper quelqu'un, si le coup n'était pas volontaire, il ne s'agit pas d'une voie de fait. Hein? Subtilité.
Situation, c'est pas dégueulasse.
Et vous allez me lâcher? Oui, je vous dis que c'est pas moi.
Je vous dis que c'est pas lui.
Et les oeils...
Bon, c'était pas lui. La responsabilité, la mens rea va donner avec le temps aujourd'hui. Au début, on parlait vraiment de cette idée là, qu'il fallait toujours trouver une intention criminelle pour trouver un acte criminel, finalement, une condamnation criminelle. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On en a déjà parlé, d'ailleurs, d'une de ces formes-là, en forme pénale, la responsabilité absolue, où on ne s'inquiète même pas de savoir s'il y avait un semblant d'intention. Dès que l'acte est commis, on va y reconnaître un acte qui mérite une punition, finalement. C'est très rare, c'est très strict, c'est très... l'interprétation de ces trucs-là, ça se passe dans des règles très précises, bien entendu. Mais il y a trois niveaux, si on veut, de responsabilité qui viennent avec la mens rea. La responsabilité subjective, hein, qui, elle, c'est vraiment l'intention criminelle. Donc, et là, l'interprétation vient avec tout son content. On va prendre l'exemple du fameux meurtre. Hein? On entend tous parler du meurtre au premier degré, deuxième degré. Dans le code criminel, ça s'appelle pas comme ça. Mais on va plutôt parler d'un meurtre commis avec préméditation et de propos délibérés. Ça, c'est très important. Il faut que les deux aspects soient présents. Parce que la préméditation n'emporte pas le propos délibéré. Dans les écoles de droit, on apprend que la préméditation, c'est la planification d'un acte, mais que le propos délibéré, c'est la réflexion sur cet acte-là. Hein, c'est-à-dire, on se demande quelles seront les conséquences, est-ce que c'est bon, c'est mal, tout ça, toutes des choses qui viennent de raison, nous semble-t-il, mais qui, dans certains cas, par exemple, dans le cas de l'affaire Bain, Richard Henry Bain, qui est un homme qui a fait une tentative sur la personne de Pauline Marois et entre-temps, il a tué un des gardes qui était sur son chemin. Maître Véronique Robert commente ce cas-là en soulignant le fait que on a condamné au deuxième degré Richard Henry Bain. Autrement dit, on n'a pas trouvé qu'il y avait les deux aspects. Il y a beaucoup de gens qui intervient parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'était prémédité puis tout ça, mais elle dit oui, c'était prémédité, mais il n'y avait probablement pas de propos délibérés. C'est un exemple de nuance, donc, en matière de responsabilité subjective. Il y a d'autres sources de nuances, là, comme l'intoxication. L'intoxication de très haut niveau peut atténuer une responsabilité en matière criminelle dans certains cas. La crainte pour sa vie, c'est la femme battue, justement, ou l'ignorance, parce que oui, dans certains cas, on va pouvoir soulever l'ignorance. Selon les infractions, c'est précisé dans les textes de loi correspondants. Donc, ne peut pas le faire quand le veut, qui le veut, comment le veut. On peut faire des vœux, par contre. Le deuxième niveau, on va parler de la responsabilité objective. Et ça, on a déjà parlé un peu du critère de l'objectivité. Le citoyen raisonnable aurait agi de quelle façon? Et si ça contrevient à ce raisonnement-là, au citoyen raisonnable, aux agissements d'un... Ben là, on va parler de la responsabilité objective. On pense ici à la négligence criminelle. Hein? Laisser un enfant dans sa voiture pour aller faire ses courses, même si on n'avait pas l'intention criminelle, ben on va dire c'est de la négligence parce que le commun des mortels sait que ce n'est pas une chose à faire. Alors on va condamner la personne. Même chose, hein, un autre exemple, la dame qui s'est arrêtée sur la voie de gauche pour sauver des canards sur l'autoroute 30. Et bien qu'on puisse ne pas être d'accord avec la peine, c'est ça qu'on a trouvé. Hein. On a trouvé que la personne avait fait de la négligence en s'arrêtant dans la voie de gauche. Elle n'aurait pas dû le faire, elle aurait dû agir autrement, enfin. Et bien sûr, il faut noter une chose, je l'ai nommé déjà, il faut qu'il y ait une conséquence pour qu'on parle de négligence criminelle. Hein? Alors, si l'enfant survit un après-midi dans la voiture, il n'y aura pas de négligence criminelle. Peut-être qu'on va pouvoir accuser cette personne-là d'autres choses, mais pas de négligence criminelle. Négligence criminelle étant un crime qui emporte une peine qui peut être très, très élevée. Même chose s'il n'y avait pas eu d'accident sur l'autoroute 30, on n'aurait jamais condamné cette personne-là à la négligence criminelle. Et tout ça, hein, c'est bien compliqué. On a déjà parlé, je vous l'ai déjà dit, du troisième niveau, la responsabilité absolue. Donc, je n'y reviendrai pas trop.
L'attention si haute en suivant les sifflets chantés dans vos langues. Isidore est beau, elle a sa manière. En approchant du sol, marin rocailleux.
Et c'est maintenant le temps de passer à la chronique de Anne-Sophie qui va nous relaxer notre vie grâce à ses suggestions de drinks et jeux. On vous écoute.
Merci, Jod. Eh bien, j'ai passé une agréable matinée à voguer sur les sites de recettes. Je fais rarement ça, je dois dire, mais le thème des jeux de société avec de l'alcool, on dirait que c'est un beau mix estival, puis juste avant la saison, des terrasses, des cours arrière et des après-midi ensoleillés, je trouvais ça à propos. Alors, je commencerai avec ma première suggestion. En fait, j'ai plusieurs types de jeux que j'ai associés avec des types de cocktails. J'ai commencé avec des jeux de pirates parce que c'était ça mon inspiration du moment. En fait, des jeux, quand je dis jeux de pirates, ça peut être des jeux de navigation, de combat naval, qui se passent dans les Caraïbes ou sur une plage de sable blanc. Alors, c'est une suggestion des raffineurs.com qui nous suggère plusieurs idées de rhum arrangé. Est-ce que vous connaissez ça, le rhum arrangé?
Ben, est-ce que c'est comme le rhum épicé, disons?
Ouais, exactement. Okay. En fait, c'est un
Captain
rhum.
Captain Morgan.
En fait, ça se vend exactement, oui, évidemment, en magasin. Mais ce que je veux dire par rhum arrangé, c'est un rhum dans lequel on va faire, j'ai le mot mariné en tête, mais qu'on va aromatiser nous-mêmes la maison. Avec une base de rhum, évidemment. Alors, quelques conseils pour vous faire votre rhum arrangé. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de la patience, parce que ça prend plusieurs semaines, voire mois, pour en faire un. Mais pour la saison, si vous commencez déjà, de maintenant, là, vous pourriez avoir un bon rhum pour la fin de l'été.
Mais là, l'été, qu'est-ce qu'on fait durant tout l'été?
On va boire autre chose. Alors, ma suggestion, en fait, pour en faire, c'est d'utiliser des fruits frais, parce que les fruits confits, ont beaucoup de sucre à l'intérieur. Des confitures aussi. Ça se fait, mais c'est conseillé davantage d'utiliser des fruits frais tels que de la banane, des oranges, du litchi, de la papaye, des fruits mûrs. C'est ce qu'on veut. On veut qu'ils soient à point lorsqu'on commence à les faire macérer. Il faut une même quantité de rhum et de fruits. On met ça dans un bocal. On peut mettre ça soit à la lumière, soit à l'ombre. On s'entend pas encore pour dire qu'est-ce qui est mieux pour ce rhum-là. On peut aussi y ajouter des épices, de la vanille, de la cannelle, fleurs d'agrumes, anis étoilé, piment, café, menthe.
Wow.
Que sais-je? Tant de possibilités. Ben oui. Alors, laissez aller votre créativité.
Mais là, il faut faire attention. On ne peut pas rajouter tout ça, là. Sinon, ça va goûter bizarre.
Non, c'est des choix. Hein? Il faut choisir.
Ouais.
Vous faites votre mix. Si vous êtes quelqu'un de pressé, vous avez envie, comme vous, peut-être déjà, d'avoir un rhum bientôt pour l'été, pour la terrasse,
ben oui.
Utilisez des agrumes. Laissez macérer ça 2 semaines.
OK.
Et ce serait suffisant.
Ah.
Pour toutes les autres mixtures, on conseille conseille 3 mois de macération.
Puis là, je prends n'importe quel rhum. Je peux te prendre un rhum épicé puis faire macérer des fruits en plus?
Oui, tout à fait.
Oh,
tout à fait. Une question de goût. Ensuite, il faut ajouter du sucre à ça, entre 10 et 20 % du volume total. En mettre un peu au début et réajuster parce qu'au cours de la macération, on peut goûter, voir si c'est assez sucré ou pas assez sucré avec du sucre de canne en sirop ou en poudre. Si vous aimez l'ananas, toutefois, je tiens à vous dire que ça prend 6 mois de macération.
Oh.
Au moins, tout comme la pomme.
OK.
Voilà. Alors, ce serait ma première suggestion pour être créatif. Hein.
Oui, oui. Et puis, ça fait penser, en plus, les bateaux, hein, souvent, se promenaient avec des barils remplis d'alcool et ça macérait tout ça, bien entendu,
oui.
Parce qu'ils ne les touchaient pas tout le temps. Là. Bon, la fiction, mais je pense à certaines sortes de bières qui ont été créées grâce à... au voyage entre l'Angleterre et les Indes.
Ah, il y a comme un temps de, ouais, ou ça, de fermentation macération. Ou de macération, ouais. Tout ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, quand on parle de jeux de pirates, moi, je pense à du rhum. Personnellement, j'aime bien le rhum and coke aussi, mais si ça nous tente de faire changement,
ouais, oui.
Il n'y a rien qui nous empêche que ce soit un peu plus fruité. Une autre suggestion, pour des jeux Ameritrash.
Oui.
Que vous connaissez.
Ben oui, ça, c'est les jeux où est-ce qu'on se bat. Hein?
Pouf, oui, pouf, pow, pow. Combat, ou des longues des quêtes. Tu sais, c'est des jeux qui sont longs.
Ah oui.
Ben, quand même.
Pas tout le temps, mais, ouais,
pas tout le temps, mais qui sont chargés. On se lance vraiment dans une aventure. C'est épique. Il y a des situations extrêmes. On est en groupe. On est soit les uns contre les autres, mais bref, on rentre vraiment dans une aventure. Alors, j'essaie de penser à quelque chose qui se boit lentement. Je trouvais qu'une bière, ça accompagne bien les Ameritrash, mais si tu bois ça trop vite, oh, c'est un petit peu lourd sur le système.
Ouais,
alors, j'ai pensé à des drinks à base de bière. Si vous aimez la bière blanche, on peut y ajouter des agrumes, la bière blonde, du jus de tomate, c'est une variante du...
Des comptoirs
des
années 60.
Des Bloody Caesar, ben, ouais. C'est comme une variante à base de bière. Et si vous aimez la bière rousse, vous pouvez faire un mixte avec de la racinette, communément connue sous le nom de root beer.
Okay.
Alors, il y a plein de drinks à base de bière. Puis pour ce genre de jeu, ça peut faire durer le plaisir un peu plus longtemps.
Oui, c'est vrai. Comme ça, on n'est pas trop perdu après 3 verres.
On n'est pas trop tapé.
Oui, c'est ça. Au soleil, là. Hein,
c'est une game de 3 heures à venir, puis que ta bière a duré 20 minutes. En tout cas, bref, c'est des petites. Puis si jamais il est tard, puis que vous commencez à fatiguer, il y a plein de mélanges de bière et de base de café.
Ah,
également.
Oui.
Ma petite dernière suggestion.
C'est drôle parce que j'ai vu cette semaine un mix drink de bière et coconut. En fait, c'est quoi le drink là, avec la coconut mexicain? Là,
Pina colada
avec, ouais. Fait avec une base de bière. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ça m'excite pas bien, je vais t'appeler.
Chacun son truc. Alors ça, c'est des suggestions que j'ai prises sur le site fraîchement.ca. Également, jeux sociaux, quand on parle de terrasse, des fois on parle de petits jeux simples où on va se relancer. Questions-réponses, jeux de connaissances générales, des jeux pas compliqués, un peu de poche, des devinettes, des défis ludiques en équipe, des choses comme ça. Alors, j'ai pensé faire une petite recherche sur la sangria. Là, on avait, pour les gens qui étaient plus bière, on avait nos suggestions. Maintenant, les gens qui sont plus vin, pour les terrasses, la sangria, c'est un must, c'est un classique. Plein de petites suggestions pour pimper votre sangria. Des boules de melon congelées. Hey, j'ai vu ça, j'ai trippé. Je trouvais ça bien mignon. Faites des petites boules dans du melon, vous congelez ça, ça fait office de glaçon. Ou des glaçons avec du vin blanc. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Glaçons aux fines herbes avec des petits fruits. Donc, on met toutes sortes de choses dans nos petits glaçons. On peut rajouter du soda italien. Il y a des sangrias à base de thé glacé, de fruits tropicaux et même à base de toutes sortes de vins. Alors, on peut sortir du vin rouge traditionnel pour aller ailleurs. Encore une fois, sur le site fraîchementpressé.ca. Et dernière suggestion. Alors, à ma grande surprise, je savais pas qu'il y avait autant de documentation sur ce phénomène. Est-ce que vous connaissez déjà les geeky cocktails?
Non.
Ou connus sous le nom de nerdy cocktails.
Non, ça me dit rien.
Alors, pour les amateurs de science-fiction ce genre de jeu de plateau, eh bien, sachez qu'ils ont tous des cocktails personnalisés, que vous soyez fan de Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones, les super-héros de Marvel, les Pokémon, Disney, chacun a ses drinks sur le net. Il y a des sites entiers consacrés aux geeky cocktails qui vont vous replonger dans un peu les univers de ces films ou de ces jeux-là. Ils sont particuliers. En fait, il y en a certains qui sont très attirants à cause de couleurs fluo, même phosphorescents. Par contre, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins appétissants, mais qui sont cocasses. Okay. Alors, si vous voulez impressionner la galerie, ça m'a l'air d'une bonne avenue. Il y a même un livre qui... et je termine sur cette dernière suggestion. Le livre s'appelle « The Cocktail Guide of the Galaxy », « A Universe of Unique Cocktails from the Celebrated Doctor Who Bar », écrit par Andy Idold, offert par St. Martin's Griffin.
Ah ben, et puis est-ce que vous avez reconnu la référence du guide intergalactique dans le guide des cocktails de la galaxie?
J'ai pas feuilleté le guide comme tel. C'est une suggestion de lecture si vous avez êtes plus libraire que web.
Mais c'est parce que je reconnais, tu sais, le guide du routard intergalactique, là, ça doit être un lien avec ça. Et vous avez pas un petit drink à nous proposer pour Mysterium, par exemple, où est-ce qu'on a peur un peu plus d'ambiance, là?
Ouais, il y a des, cocktails, oui, les années 20, mais je pensais à quelque chose de plus fantomatique. Donc, il y a des cocktails qui ont une espèce d'esthétique de brouillard, un peu dans le bleu, un peu dans le mauve, un peu givré.
Et on va trouver ça?
On va trouver ça sur le net.
Ah, c'est parfait. J'aime ça, le net.
Faut les essayer, en fait. Je me porte pas garante d'aucun de ces cocktails-là. C'est ça, ce sont que des suggestions à essayer.
Vous les avez pas tous essayés ce matin?
Ben non.
C'était pas ça que vous nous disiez tout à l'heure. Ah ben, OK. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous ai pas dit c'est quoi qu'on a écouté avant la chronique de notre amie Anne-Sophie. C'était « Aquoyen » par Franck Feutré sur son album « Aquoyen ». Et nous allons maintenant nous écouter une petite chanson de Raphaël Lanader, elle, chanson sur l'album Chanson, qui s'intitule Vertige.
Vertige, du temps qui passe, que demain s'efface, jusqu'aux vestiges de nos 15 ans, t'as pas le vertige, dis-moi, de temps en temps, quand tu regardes les années qui sont passées déjà, qui ont filé. Escapade au large de la vie, les farces trop faciles, ma sœur, pour se moquer des autres filles et jouer aux garçons, ma sœur, courir, entendre battre son cœur, t'as pas le vertige du temps qui passe. Demain s'efface jusqu'aux vestiges de nos 15 ans. T'as pas le vertige, dis-moi de temps en temps.
Et pour finir, on va se faire une petite critique de Mysterium. Bien entendu, Anne-Sophie, vous êtes bienvenue de nous donner votre avis sur ce jeu que vous connaissez un peu, je crois. Alors, dans un premier temps, on va parler de la qualité des composantes. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi que les composantes sont de qualité. Il y a un beau paravent avec des beaux dessins faits dans un carton solide, épais. Et ça, c'est souvent un trait de certaines compagnies de ne pas faire les trucs épais. Mais avec Libellude, ici, c'est bien édité.
Oui.
Les cartes aussi sont de qualité. Les dessins sont magnifiques. Ce sont de super beaux dessins, tous des œuvres d'art en soi. Et ça cause beaucoup de problèmes parce qu'on passe beaucoup de temps à les regarder et à les admirer, des fois, dans le spectacle. Dans le jeu. Notre avis maintenant sur les mécaniques, les règles qui sont assez simples, je pense. Mm-hmm. Hein? Vous serez d'accord avec moi ou pas?
Oui.
C'est assez simple. Le manuel d'instruction a environ une quinzaine de pages, dont trois, c'est de la mise en contexte, un peu de l'ambiance, des trucs comme ça.
On est beaucoup dans l'ambiance dans ce jeu-là.
Ben justement, même Libellude a fait le travail de nous donner une trame d'ambiance à laquelle moi j'avais ajouté un peu de musique des années 20 pour ajouter à cette ambiance-là.
Bonne idée.
Par contre, les règles font en sorte que ça peut être un peu frustrant pour le fantôme des fois, puisqu'il est tout seul, il ne peut pas parler aux autres et il se ramasse un peu tout seul avec lui-même. Et ça peut être long pour les autres joueurs pendant que ce fantôme-là est en train de choisir quels indices il va donner aux autres.
C'est ça, il y a un peu de temps mort hein, pendant cette période où le fantôme doit donner les cartes un peu à chacun. C'est beaucoup de job, en fait. Moi, j'ai envie de dire que celui qui fait le fantôme, faut qu'il soit un peu averti qu'il va, il va travailler fort, puis il va se sentir tout seul dans son coin.
Ouais.
Mais c'est stimulant, quand même.
Oui, ouais, c'est quand même
stimulant. C'est quand même amusant de faire le fantôme aussi.
Ça, c'est vrai. La place du jeu, si on veut, dans l'univers des jeux, je pense que c'est un jeu qui est assez simple pour être introduit à la famille, qui va servir à tout le monde. Ça peut se jouer à 7, donc avec des gros groupes. Et puis, pour les joueurs plus positifs, il y a même une variante pour les gens plus compétitifs. Sur ce, c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite un